Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue dans Cinéscopie, le magazine du cinéma et de la musique de film. Nous sommes ensemble jusqu'aux alentours de 22h30 pour bien sûr vous parler de l'actualité des films, du cinéma, de l'actualité du support physique, DVD, Blu-ray, et de musique de film, bien évidemment. Et donc, on est très heureux de vous retrouver. Et c'est notre, d'ailleurs, dernière émission de l'année, puisque les fêtes vont commencer incessamment sous peu. On se retrouvera donc, eh bien, début janvier 2026, l'année prochaine. Mais ça sera vite là. Mais en attendant, on va se changer les idées, on va faire la fête. Et la fête, c'est aussi au cinéma, parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de bons films, et on vous en parlera, bien sûr, dans quelques instants. Et on commence d'abord avec la musique de film. Alors, la musique de film, parce que j'ai entre les mains, là, c'est le Père Noël qui m'a apporté deux très beaux disques. Tout d'abord, la musique d'un giallo qui s'intitule « Nudé per l'assassino »,« Nu pour l'assassin ». C'est un film réalisé dans les années 70 par Andrea Bianchi. Alors, c'est pas le meilleur des giallos, c'est un giallo, on pourrait dire, un petit peu crapoteux, mais qui, un peu trash, qui a le mérite, en tout cas, d'avoir un casting assez intéressant, puisqu'on y retrouve Edwige Fenech, moi j'adore cette comédienne, Femi Benussi, qui était également un sexe symbole du cinéma populaire italien des années 70, et puis Nino Castelnuovo. Alors, Nino Castelnuovo, vous le connaissez tous, parce que c'était lui l'amoureux de Catherine Deneuve dans Les Parapluies de Cherbourg. Et oui. Donc voilà, un film quand même sympathique, avec une très bonne musique signée Berto Pisano. Et c'est un label qui s'appelle Four Flies Records qui nous propose la BO de ce film, assez rare d'ailleurs, qu'on a retrouvé que très récemment les bandes avec la musique. Et donc, je vous conseille franchement cette BO qui existe à la fois en CD mais aussi en vinyle si vous êtes collectionneur. Voilà, donc c'est chez Four Flies Records, Nudé per l'assassino, musique de Berto Pisano. Voilà, donc merci Père Noël, parce que franchement, en plus il y a un très beau facing qui nous permet d'admirer justement les quelques-unes des interprètes principales de ce film, ces interprètes qui d'ailleurs, faut bien le dire, comme le titre l'indique, le titre n'est pas mensonger, elles se dénudent effectivement très régulièrement dans ce film. Alors, autre nouveauté, et alors là c'est quand même quelque chose de vraiment de très important, c'est la musique de The Chairman. The Chairman, c'est un film réalisé en 1969 par Jack Lee Thompson, qui était sorti chez nous sous le titre L'homme le plus dangereux du monde. Alors, c'est un film qu'on a un petit peu oublié. Dans le rôle principal, il y avait Gregory Peck, et Gregory Peck, dans ce film, est censé rencontrer Mao Tse-tung. Voilà, donc le film se passe en Chine, et en fait, ce que Gregory Peck, enfin ce que le personnage incarné par Gregory Peck ne sait pas, c'est que on lui a implanté sous le crâne une puce électronique, mais qui est en fait une bombe. Et donc, à un moment donné, donc en présence de Mao, eh bien, le personnage doit exploser et entraîner dans sa mort Mao Tse-tung. Alors, je n'en dis pas plus. Ce qui est un petit peu amusant dans ce film, c'est qu'à un moment donné, Gregory Peck, enfin son personnage, joue au ping-pong avec Mao. Et ça, c'est assez marrant, parce que c'est 2 ans avant ce que l'on a appelé la diplomatie du ping-pong entre les États-Unis et la Chine. Alors, ça préfigurait d'une certaine manière un petit peu cette diplomatie, c'est assez amusant. Alors, c'est un film qui est un peu tombé aux oubliettes, cet homme. Alors, quel est l'homme le plus dangereux du monde? Est-ce que c'est Gregory Peck avec la bombe qu'on lui a greffée dans le cerveau, ou est-ce que c'est Mao? Alors voilà, en tout cas, le titre original, c'est The Chairman, et c'est Jerry Goldsmith qui, à l'époque, avait signé la musique de ce film. Alors, il y avait une édition discographique, mais la qualité du son laissait vraiment à désirer. Et c'est vrai que on peut même dire que les différentes éditions discographiques de cette bande originale laissaient vraiment à désirer d'un point de vue sonore. Donc, Intrada Records, un label basé en Californie, a décidé de réenregistrer cette partition avec le Royal Scottish National Orchestra sous la direction de William Stromberg. Donc c'est la partition dans son intégralité qui est donc rejouée le résultat est vraiment très très spectaculaire. Et c'est un Goldsmith comme moi je les aime bien, c'est-à-dire que il a fait Goldsmith quelques films avec des influences asiatiques et je trouve que à chaque fois il s'en sort plutôt pas mal. C'est le cas sur cette BO que je vous conseille. Et alors en plus il y a des bonus plutôt très intéressants puisque on va en guise de bonus on a d'autres musiques de films de Goldsmith mais des extraits qui sont totalement inédits. Donc on va avoir un inédit de Under Fire, un inédit de Lilies of the Field, un inédit de Rambo, d'ailleurs Rambo 2 pour être plus précis, et un inédit de Jamais sans ma fille. Et puis il y a même un truc complètement inédit, c'est la musique d'un film The Game of Their Lives. En fait c'est un film que Goldsmith avait commencé il était déjà assez malade donc il n'avait pas pu finir, mais donc on a quand même sur ce disque une idée de ce que la musique aurait pu être puisque Jerry avait quand même écrit en tout cas une partie de la musique. Voilà, donc Rambo 2, Jamais sans ma fille, Under Fire, des bonus vraiment super intéressants pour cette BO The Chairman que franchement je vous conseille. Tout à l'heure, là, à l'instant, je vous parlais de Diallo avec Nu pour l'assassin. Eh bien, je voudrais vous rappeler, parce que je ne sais pas si je vous en ai parlé déjà, mais il y a un livre qui va prochainement sortir, un livre édité par The Ecstasy of Film. C'est une monographie signée Jérôme Potier sur le giallo. Ça s'appelle « Jaune comme le sang ». Il y aura 3 volumes. Et donc, c'est le volume 1 qui va bientôt paraître. Ce volume concerne la période 1929-1969. Alors, évidemment, c'est un ouvrage indispensable hein, si on est cinéphile. Et puis, a fortiori, on s'intéresse au giallo. Donc, c'est un ouvrage dans lequel, évidemment, puisqu'on commence en 1929, Jérôme Potier s'intéresse aux origines du giallo, avec notamment un retour exhaustif sur la littérature jaune, en compagnie de spécialistes comme l'éditeur François Guérif ou l'historien du polar Claude Méplède. Il y aura également la présentation de l'artiste Carlo Iacono, mythique illustrateur des collections Mondadori, et puis un rappel de l'affaire Fenaroli, un crime qui a passionné l'Italie et entraîné un engouement conséquent pour le giallo de machination. Voilà, tout plein de choses. Et puis évidemment, au-delà de l'histoire de cette série, la série jaune, les giallo Mondadori, il y a évidemment toutes les origines cinématographiques du giallo, parce que le giallo finalement, avant d'être italien, il trouve ses origines en Allemagne, en Angleterre, en France. Donc il y a tout ça. Et puis évidemment, une filmographie, vidéographie détaillée qui couvre la période 1963-1969. Donc, pour l'instant, ce livre, vous pouvez le précommander sur Ulule, parce qu'il fait l'objet actuellement de ce qu'on appelle un crowdfunding. Donc, vous pouvez l'acheter. Je crois que le livre simple, c'est 30 euros. Donc, c'est pas excessif. Donc, vous pouvez y aller. Vous avez encore jusqu'à la fin du mois de décembre pour le précommander, parce qu'après, il sera un petit peu plus cher. Donc je crois qu'il passera à 35 euros. Donc Jaune comme le sang, volume 1, 1929-1969, vraiment un très beau livre qui s'annonce, pas avant bien sûr. Je crois que ça devrait sortir fin janvier, début février 2026. Voilà donc quelques petites news pour commencer cette émission, dernière émission de l'année, et oui, je vous le rappelle. Mais nous sommes ensemble jusqu'à 22h30. Bonsoir Laurent, oui, vous vous demandiez. Je vous rappelle quand même que Cinescopie est une émission proposée et animée par Laurent Craven et Chris Lucas. Alors Laurent, il est là en face de moi, il se concentre sur ses manettes, parce que vous savez, c'est le maître des consoles ici. Hein, donc on ne peut rien faire sans lui. Il est indispensable, incontournable. Bonsoir Laurent, comment vas-tu ?
Bonsoir à tous, à toutes. Eh bien, pas mal du tout d'ailleurs, parce que le cinéma, nous réjouir en ce prélude des fêtes de fin d'année. Vous voyez ce que je veux dire.
On en parlera peut-être tout à l'heure.
Voilà, et puis bon, on fait une petite référence à ce film, hein, Avatar, parce que malgré tout, quand même, le film a eu un démarrage spectaculaire. C'était un petit peu prévisible, hein, d'ailleurs, dans l'ambiance morose, je dirais mondiale. Eh bien, le film a engrangé quand même, parce que bon, malgré tout, voilà, il faut toujours parler un petit peu de dessous. Malgré tout, c'est le nerf de la guerre, si je puis dire. Oui. Et donc, du coup, eh bien, le film en un week-end a déjà engrangé 350 millions de dollars. Voilà, en un week-end, ce qui est quand même énorme.
Il a peut-être déjà remboursé son investissement.
Peut-être.
C'est possible.
Peut-être. Donc voilà. Donc on peut se féliciter parce que bon, malgré tout, on en débattra très certainement dans les films de la semaine parce que bon, c'est quand même incontournable de parler de cette sortie-là. Et donc du coup, bien, on se félicite pour Cameron parce qu'il y avait quand même quelques interrogations, ce d'autant avec ce temps quand même relativement long entre les différents épisodes. Et donc, est-ce que le public allait être au rendez-vous? Donc, eh bien, on a déjà une partie de la réponse. Voilà. Et puis, l'autre chose, alors, c'était plutôt la bonne nouvelle, on va dire. La mauvaise, c'est une disparition. D'une figure majeure du théâtre français et sociétaire de la Comédie française durant plus de 20 ans, c'est Pierre Vial qui, en fait, nous a quittés à un bel âge quand même, 97 ans. C'est son fils Nicolas, qui est d'ailleurs également comédien, qui a annoncé en fait la disparition de son père. Et c'est vrai que du grand public, on se rappelle de l'acteur à travers, entre autres, sa prestation qu'il avait faite dans le film, le grand classique, Les Visiteurs. Voilà. C'est le monde du théâtre aussi qui est quand même plutôt, je dirais, en grande partie en deuil parce que c'était un de ses grands représentants. Et donc, du coup, c'était un comédien qui faisait partie aussi qui était associé à la fondation de Rothschild qui a embrassé, je dirais, le métier et les planches, si je puis dire, aussi à travers bien des grands classiques comme Shakespeare, hein, d'ailleurs, où il avait joué Hamlet, Comme il vous plaira, Alfred de Musset avec Lorenz Accio, Racine avec Phèdre ou encore Molière, Les Précieuses Ridicules. Donc voilà, donc pour tout vous dire, c'était un artiste relativement complet et puis avec un faciès, enfin une gueule, si je puis dire, qui était reconnaissable entre toutes, et donc qui a marqué bien sûr son époque. Et donc on peut dire que l'acteur, parce qu'à travers aussi les films, parce que au passage quand même, hein, Les Visiteurs de Jean-Marie Poiret, parce que bon, le premier volet, hein, qui a été sorti en janvier 93, hein, ça ne nous rajeunit pas tout ça quand même, avait fait en fait 13 millions, enfin presque 14 millions d'entrées.
Oui, c'est
quand même énorme. Ouais. Hein, voilà. Voilà. On voulait rendre hommage quand même à cet artiste qui est là encore incontournable dans la scène française, et en particulier le théâtre, parce que même si on défend bec et ongle le 7e art, les deux sont proches. Voilà.
Ouais. Je voudrais signaler aussi, bon, même si elle n'a pas fait une carrière aussi prestigieuse, mais enfin quand même une comédienne dont on se souviendra, parce que moi je m'en souvenais, mais c'est vrai qu'elle, depuis quelques années, était un peu oubliée, c'est Monique Tarbès. Monique Tarbes qui nous a quitté aujourd'hui. Elle avait, elle, 91 ans, me semble-t-il, Monique Tarbes. Et voilà, on l'a vu surtout dans des seconds rôles, hein, mais voilà, donc je voulais quand même le signaler. Et mais je l'ai appris là juste à l'instant, il y a pas, on l'a appris aujourd'hui, hein, donc on l'évoquera peut-être l'année prochaine un petit peu plus. Bon, Laurent, on va commencer cette émission en musique. Hein, qu'est-ce que tu nous as concocté pour ouvrir en fanfare cette émission ?
Eh bien, on va écouter la musique d'un film d'animation de 2011 qui s'intitule The Greatest Miracle.
Le plus grand des miracles, alors.
Le grand miracle.
C'est le grand miracle.
Ah. Voilà.
C'est de circonstance, du
oui,
coup. Parce que
El Gran Milagro.
El Gran Milagro, et oui. Et parce qu'il ne faut pas oublier que les fêtes de Noël sont des fêtes chrétiennes aussi. Hein, donc, voilà.
Et donc, ce film d'animation qui raconte l'évolution de trois personnes ferventes, croyantes, et donc l'histoire d'une femme veuve qui fait tout son possible pour entretenir son logement, une conductrice des transports publics, et une femme mûre qui sent que sa maison dans cette vie est terminée. Et donc, ce film a été mis en musique, si je puis dire, par Mark McKenzie. Alors peut-être que c'est un compositeur que vous connaissez un petit peu moins. Voilà. C'est un compositeur, c'est un orchestrateur aussi, feint orchestrateur d'ailleurs. Hein, il est présent souvent sur des des très gros projets de grands compositeurs. Et ce titre-là que vous allez écouter ce soir, c'est peut-être une de ses plus belles partitions, à ma connaissance, même s'il y en a eu quand même.
Oui, c'est vrai que on aime bien Mark McKenzie. Il est toujours assez lyrique, voilà. Et évidemment très bien écrit.
Ah oui, oui, oui. Et puis pour le coup, là, on va écouter l'ouverture, enfin un prélude, hein, de 8 petites minutes. Pour ce grand miracle. Et je pense que vous n'allez pas en ressortir indemne, tellement cette partition est intime et mélodiquement imparable.
Voilà. Ah oui.
Donc on écoute cela et on se retrouve juste après pour parler de quelques nouveautés à la vidéo, parce que maintenant, le plus gros est sorti quand même.
Ouais. Voilà. Bon, y a quand même des petites choses qui...
Mais ça est là, voilà. Allez, tout de suite, le grand miracle. Vidéo.
La rubrique vidéo, oui, c'est l'actualité du support physique, DVD, Blu-ray, Steelbook. Voilà, il y a encore des choses qui sortent. C'est vrai que le plus gros des sorties, ben voilà, sont déjà dans les bacs, mais bon, il y a quand même quelques titres qui sont sortis. Alors, on va vous en parler, on va dire un petit peu ce qu'il y a, c'est ce qui est digne d'intérêt ou pas. Tiens, il y a un truc qui m'est venu à l'esprit comme ça, mais je sais pas si je l'ai dit la semaine dernière. Mais bon, vous savez que un reboot de l'Exorciste est actuellement en route là, et c'est Mike Flanagan qui va réaliser le film, et on sait déjà qui jouera le rôle principal de l'Exorciste version Mike Flanagan. Eh bien, c'est Scarlett Johansson. Alors moi, je suis très très content parce que c'est une actrice que j'apprécie. Alors j'imagine que c'est pas elle qui sera possédée, hein, parce que voilà. Bon, apparemment, dans le casting, il y a un petit garçon qui a rejoint le casting. Alors on peut peut-être imaginer que ce sera le petit garçon qui sera cette fois-ci possédé. Enfin bon, on verra. Il y a Scarlett Johansson, c'est un bon point pour Mike Flanagan quand même. Il faut bien le dire. Voilà. Bon, l'actualité de la vidéo. Alors la vidéo, restons, je vous parlais de l'Exorciste, restons dans le fantastique, en tout cas le film d'horreur, avec La Nuit des Clowns. La Nuit des Clowns, film américain réalisé en 2025 par Eli Craig, avec dans les rôles principaux Cathy Douglas, Aaron Abrams et Carson McCormack. Dans ce film, adapté d'ailleurs d'un roman, je précise d'ailleurs que ce roman est disponible en France, en version française, hein, La Nuit des Clowns. Donc le personnage principal, Quinn, suit son père, qui est médecin, qui donc voilà, il va s'installer dans une petite bourgade américaine. Petite bourgade rurale où il n'y a même pas de réseau. Alors c'est comme quand on est ado et qu'on arrive dans un coin en zone blanche. Enfin c'est terrifiant. Voilà. Mais heureusement, Quinn fait la connaissance d'adolescents qui lui font part d'une légende concernant Frendo le clown qui hanterait le coin. Bon, je t'en dis pas plus. C'est plutôt un slasher qui ménage quelques surprises et qui est plutôt correctement emballé. Donc cette Nuit des Clowns, bon, c'est pas un chef-d'œuvre, mais en tout cas c'est plutôt plaisant à suivre, plutôt bien photographié. Donc moi je l'ai vu, bon écoutez, ça peut le faire, et c'est M6 Vidéo qui vous propose ce slasher La Nuit des Clowns. Un film d'action maintenant qui est sorti là aussi en 2025, Nobody numéro 2. C'est Universal qui vous propose un 4K. Alors en plus c'est un combo, c'est-à-dire vous avez le 4K ultra haute définition et puis un Blu-ray standard, tout ça dans un boîtier Steelbook en édition limitée. Donc Nobody 2, un film réalisé par Timothy Chajanto avec Bob Odenkirk, Connie Nielsen et Christopher Lloyd. Dans cet épisode, le personnage principal, Hutch, doit toujours rembourser la mafia russe et enchaîne donc les contrats. Ayant besoin de souffler, il part en vacances avec sa famille. Et là, pas de chance, il va encore se fourrer dans des situations qui ne vont pas être de tout repos. Voilà, un épisode sympathique, quoique j'ai trouvé inférieur au premier volet. Enfin bon, moi j'aime beaucoup Bob Odenkirk, donc ça peut faire la blague quand même, même si, voilà, je vous le dis tout de suite, c'est quand même pas du niveau du premier Nobody, l'effet de surprise en moins également. Voilà, en tout cas, c'est chez Universal, dans un steelbook limité en 4K ultra haute définition. Et puis j'en parlais avec Laurent hors antenne tout à l'heure, la sortie chez Sony Pictures de Karate Kid Légende. Là aussi, Sony vous propose un boîtier Steelbook en édition limitée, avec donc le 4K ultra haute définition et puis le Blu-ray standard. Donc ce Karate Kid Légende, le film est sorti cette année, il est réalisé par Jonathan Entwistle, avec dans les rôles principaux Ben Wong, Jackie Chan et Ralph Macchio. On est content de le retrouver, Ralph Macchio ou Macchio, parce que c'était lui le personnage principal du premier Karate Kid, bien sûr. Dans ce film Karate Kid Légende, après un événement dramatique, un jeune Chinois quitte Pékin avec sa maman pour emménager à New York. Très doué en kung-fu, il se retrouve entraîné dans une compétition de karaté. Mais là, il est surclassé. Il prend alors 2 mètres pour s'entraîner intensément et devenir évidemment le meilleur. Voilà, Karate Kid Légende, on en parlait avec Laurent, c'est pas un chef-d'œuvre là aussi, mais c'est plutôt correctement emballé. Et donc, pour les enfants, c'est sympa. Mais la grosse sortie de la semaine quand même, c'est À toute épreuve, film réalisé en 1992 par John Woo. Et c'est Metropolitan et HK Video qui vous proposent un coffret collector avec le film en ultra haute définition, un Blu-ray standard et un troisième Blu-ray avec des bonus. Donc je rappelle que ce film À toute épreuve, c'est peut-être le maître étalon du film d'action. C'était comme un uppercut quand il est sorti en 92. Il y a quelques films comme ça qui ont marqué. On pense à Piège de cristal, Predator, et puis À toute épreuve de John Woo, avec dans les rôles principaux Chow Yun-fat et Tony Leung, qui sont tout à fait remarquables. L'histoire nous entraîne dans le Hong Kong de 1997. Les Britanniques vont rendre à la Chine populaire la ville de Hong Kong, et c'est une ville gangrénée par le crime. Alors que les policiers ont baissé les bras, un groupe d'inspecteurs mené par Yuen décide de mettre fin à la suprématie des gangs. Et évidemment, tout cela va finir en baston, et c'est explosif. Voilà, je crois que c'est quand même le classique du film d'action hongkongais, À toute épreuve. Alors, en plus, il y a un livre de 20 pages, 5 photos, une affiche, et donc moi c'est ma recommandation, bien sûr. J'étais allé d'ailleurs revoir le film en salle, puisqu'il était ressorti il y a quelques semaines dans sa version restaurée. Et puis pour terminer cette petite chronique Blu-ray DVD, deux annonces, des films qui ne sont pas encore sortis mais qui vont arriver assez vite, début janvier 2026. Je vous en parle parce que j'adore ces films. Tout d'abord, un western spaghetti, Saludos Hombre, un film de Sergio Solima. Sergio Solima l'avait tourné en 1968, avec dans le rôle principal Thomas Millian. À ses côtés, il y avait Donald O'Brien, John Ireland. L'histoire de Cuchillo qui, en prison, rencontre un certain Ramirez avec qui il s'évade. Et alors, ils se rendent tous les deux dans le village de Ramirez parce que Ramirez y aurait caché un trésor. Évidemment, Cuchillo, il est intéressé par le trésor, mais malheureusement, il n'est pas le seul à être intéressé. Ramirez est assassiné. Et du coup, comme apparemment Cuchillo sait où se trouve la cachette, mais il va être poursuivi par des bandits. Voilà, bon, j'en dis pas plus, mais c'est un film assez picaresque avec une musique signée Bruno Nicolai, qui est vraiment très réussi. Et donc le film sort, c'est ça qui est intéressant, il sort en 4K, c'est-à-dire que c'est quand même un des meilleurs western spaghetti, et Artus Film vous le proposera en ultra haute définition. Alors ça sera un combo, vous avez l'ultra haute définition et puis aussi un Blu-ray standard du film. Dans les bonus, il y a un entretien avec Sergio Solima, donc ça c'est toujours appréciable. Donc ça sort Bah, début 2026, il y avait déjà eu une édition hein, chez 7-7, je crois, de ce film. Mais il mérite le détour. Voilà, ça fait partie de, d'une série de westerns réalisés par Solima. De westerns, on peut appeler de westerns un peu sociaux, entre guillemets. Voilà, où les héros sont des peones, voilà, des paysans qui font la révolution, qui se trouvent pris dans la révolution un petit peu, voilà, qui subissent un peu les événements. Et puis, on vous en avait déjà parlé, mais je préfère vous le rappeler quand même, chez Carlotta Film, le 17 février prochain, sort La Tarentule au ventre noir, film de Paolo Cavara. C'est un giallo, là aussi. Vous voyez, je suis un peu monomaniaque, hein, vous allez me dire avec ces histoires de giallo.
Mais c'est surtout que là, pour le coup, je pense qu'on aura forcément l'occasion d'en reparler, parce que c'est un titre très attendu quand même.
Ah oui, parce que c'est quand même. Ça fait quelques années que les gialli sont à la mode, reviennent à la mode. Et puis, il y avait quand même énormément de titres qui étaient sortis. Et on attendait celui-là avec impatience, il sortait jamais. Et ben voilà, il arrive. Alors là, dans ce film, des femmes sont sauvagement assassinées et le modus operandi du meurtrier suit toujours le même étrange rituel. Il soumet ses victimes et les paralyse en leur plantant une longue aiguille empoisonnée dans la nuque avant de leur ouvrir le ventre. L'inspecteur Tellini, chargé de l'enquête, a de plus en plus de mal à composer avec la violence et la rudesse de son métier. Et ces investigations laborieuses leur amènent à un luxueux institut de soins dont la clientèle féminine paraît tout aussi idéalement fortunée que vulnérable. Et clientèle féminine et avec un casting incroyable. Stéphania Sandrelli, Claudine Auger, Barbara Boucher, enfin, on a Barbara Bach. On a quand même les plus belles actrices du cinéma italien de l'époque. Mais enfin, on en reparlera, tu l'as dit, Laurent. En attendant, on reste à l'affût sur ce Saludos Hombre et sur cette tarentule.
Mais surtout que Saludos Hombre est annoncé pour fin décembre.
Oui, mais alors, fin décembre, j'y crois pas trop.
Non, ça veut rien dire, il faut voir, voir.
Alors, surveillez vos linéaires. Non, parce que c'est quand même un excellent film.
Enfin, ben oui, voilà. C'est bien pour ça, oui.
Bon, mon cher Laurent, je te cède le micro.
Oui, alors, moi je restais dans des classiques. Alors, classique à commencer par cette collection Enseigne qui ressort hein, des salves de films qui sont aujourd'hui indisponibles, en fait. Hein. Et donc là, c'est un film où on retrouvait Jodie Foster, film de 1997. La musique est signée Alan Silvestri et il y avait aux côtés de Jodie Foster Matthew McConaughey, un acteur que j'estime particulièrement, James Woods pour ce film Contact, film fantastique qui est ressorti donc en Blu-ray en haute définition. Pour le plaisir bien des cinéphiles, parce que là si vous voulez voir un film avec Jodie Foster qui réussit, il faut quand même voir ce film.
Oui, c'est excellent, celui-là.
Si vous ne le connaissez pas, en tout cas. Si vous le connaissez, forcément, il faut l'avoir dans sa vidéothèque. C'est un grand classique du cinéma fantastique.
Oui, et puis, c'est ce qui nous fait réfléchir sur notre place dans l'univers. Un peu comme d'ailleurs va le faire Spielberg avec son prochain film, Disclosure D, dont on peut voir déjà la bande-annonce. Oui.
Alors, je ne vous ai pas parlé du pitch hein, pour Contact, mais c'est l'histoire d'une jeune scientifique qui tente de prouver à son entourage sceptique qu'elle a détecté un message d'origine extraterrestre.
Eh oui.
Voilà. Et donc, derrière la science-fiction, c'est une passionnante réflexion sur la vérité qui n'hésite pas à aborder les questions théologiques les plus essentielles. Hein. C'est du grand spectacle, et en plus d'être du grand spectacle intelligent, ce qui n'est pas toujours fréquent.
Oui. Mais là, je vais l'acheter parce qu'il manque à ma collection, celui-ci.
Et donc, c'est dans cette collection, est-ce que tu enseignes Warner. Voilà. Ouais. Et à savoir aussi que, alors je veux pas vous mettre l'angoisse, mais bon, on en a parlé la semaine dernière sur le rachat de Warner, que ce soit d'ailleurs par Amazon ou par Paramount,
Paramount. Ou Netflix plutôt d'ailleurs, je crois que c'était plutôt Netflix.
Non, c'est Paramount.
Ah non, mais Netflix ou Paramount.
Oui. Mm. Et donc, du coup, Paramount Plus, donc en fait, ce sont des plateformes. Mm. Et donc, du coup, on peut penser que l'avenir Warner se fasse aussi en dématérialisé. C'est un petit peu dommage pour nous qui sommes aussi, je dirais, collectionneurs, mais. Aussi friand de pouvoir posséder certaines œuvres. Voilà.
Ah bah oui, tu vois, là j'ai entre les mains ces beaux disques que le Père Noël m'a apportés en avance aujourd'hui, et c'est vrai que là je les dévore des yeux, parce que c'est magnifique. Et puis en plus, on sait qui a fait quoi, ça, parce que aujourd'hui, voilà, on nous envoie des musiques, c'est bien, mais bon, mais qui alors qui chante, si, peut-être qu'on sait qui chante, mais après ça s'arrête là. Donc c'est un peu dommage. Là, on a, quand on a un disque, une belle galette, on a, d'abord, on a un travail artistique, hein, entre les mains. Donc, c'est vraiment plaisant.
C'est un bel objet. Et voilà, en fait, apporte aussi un plus, outre la musique qui est gravée, au moins, voilà, il y a des informations, enfin, tout ce qui, en fait, accompagne bien l'œuvre, que ce soit d'ailleurs de la vidéo ou du son. Oui. Autre film qui est proposé dans sa version cinéma et dans sa version longue, un film de Luc Besson avec Jean-Marc Barr, peut-être qu'on en avait déjà parlé, Jean Reno ou Rosanna Arquette, un film qui date de 1988 hein, quand même, qui avait reçu à l'occasion les Césars des meilleures musiques et sons, et donc c'est Le Grand Bleu, qui est ressorti chez Gaumont Vidéo, alors dans une édition, me semble-t-il, Steelbook, c'est ça, et aussi dans une édition exclue enseigne, avec un boîtier métal, mais avec un grand coffret, avec deux disques 4K, deux Blu-ray, un DVD, un livre de 180 pages, une affiche, et aussi le vinyle de la bande originale. Voilà.
Oui, de toute façon, c'est un film culte aujourd'hui, hein, toute façon. Ouais. Et quoi qu'on pense de Besson, force est de constater que c'est un type qui sait mettre en image ses histoires. C'est vraiment, il s'est filmé, quoi. Je veux dire, ça, c'est incontestable.
Donc voilà, c'est aussi un film incontournable. Moi, je pense que la plupart des auditeurs l'ont certainement vu et revu. voilà.
J'avais revu d'ailleurs, je l'avais vu en version courte entre guillemets, puis j'avais revu la version, enfin en version longue, il était sorti en salle en version longue.
Donc là, voilà. Alors ce beau coffret est quand même un petit peu onéreux. Il faut casser un peu la tirelire, c'est au-delà d'une centaine d'euros quand même.
Ah oui, quand même.
Après, vous avez le film donc dans sa version un petit peu plus simplex, version juste métal, avec qui est un petit peu moins onéreux. Mmh. Après, c'est à vous de choisir. Un film hongkongais. Ouais, c'est un petit moment que. et donc là, on le doit à Carlotta. C'est un film qui est déjà paru de Leong Po-chi avec John Cham, Ho Ha-won et Timothy Zhao. Film d'horreur, titre original Sang-sei Sin ou Lille, The Island.
Ah oui, Lille.
Film déconseillé aux moins de 12 ans et qui raconte l'histoire d'un professeur avec ses 6 élèves en excursion sur une île déserte qui sont pris en chasse par 3 frères obsédés par la perpétuation de leur lignée. Voilà.
D'accord.
Et donc, c'est un slasher, hein, grand guignolesque, signé d'un précurseur de la nouvelle vague hongkongaise, qui entraîne le spectateur dans un jeu de massacre à ciel ouvert, dans le jeune casting composé de comédiens non professionnels, qui fait d'ailleurs majoritairement les frais d'ailleurs. Mais bon, ça a le mérite d'exister, de découvrir un petit peu ce film un petit peu croustillant, si je puis dire, et donc qui s'appelle Lee, avec un très très beau packaging signé Carlotta. C'est pour ça que voilà, on le souligne à chaque fois, mais bon, il y a quand même du travail pour l'éditeur pour essayer de voilà de d'apporter un plus. Et comme on est avec le Grand Bleu, on parlait de version longue, eh bien il y a un coffret chez ESC Films qui vient de sortir avec la version censurée et non censurée du film de Rob Zombie réalisé en 2007 pour Halloween, avec Malcolm McDowell, entre autres, Tyler Mane et Scott Taylor Compton. Musique signée par Tyler Bates et John Carpenter. Des années après avoir massacré presque toute sa famille, eh bien, un psychopathe s'évade de l'établissement où il était enfermé. Donc, c'est un respectueux remake grâce à une mise en scène inspirée, autant en matière d'ailleurs de terreur que de psychologie. Inédite jusqu'ici en France, la version non censuré, qui ajoute un important lot de dialogues plus ou moins crus, réintègre en fait des scènes de violence graphique, dont un viol, et développe la relation entre le jeune Michael Myers et son psychiatre. Voilà. Donc cette édition peut quand même être très intéressante.
Ouais, c'est pas mal. C'est que effectivement j'avais quelques réserves sur sur la version de Rob Zombie, mais en fait si on fait abstraction des films de John Carpenter, je trouve que le film il est vraiment intéressant. Et c'est vrai que Rob Zombie étant Rob Zombie, il y va franco dans la violence. Quoi. C'est même d'ailleurs. Je trouve que c'est extrêmement violent. Hein. C'est ouais. Le 2, il y a le 2 aussi qui est un peu moins violent, comme mais ce premier épisode, je crois que ça nous percute quand même.
Ouais.
Non, franchement, d'ailleurs, je crois que je vais me l'acheter en version sur deux versions longues alors finalement, parce qu'il y a des scènes rajoutées.
Oui, voilà, version non censurée. Alors on ne sait pas exactement en termes de durée. Bah si, ça fait 11 minutes quand même.
Donc, il y a 11 minutes en plus.
Ouais, c'est quand même pas mal.
Oui, c'est un film à redécouvrir. Mais il faut vraiment avertir nos auditeurs que c'est quand même... Autant le John Carpenter, on n'y est pas grand-chose. Hein, c'était quand même hors champ.
Oui.
Là, c'est très graphique. Hein.
Oui. Mais chez Rob Zombie, c'est souvent le cas. Hein.
Ah ouais.
c'est brut.
C'est ça. Il rentre dans l'art.
Autre film dramatique qu'on avait vu d'ailleurs dans Cinéscopie, film de cette année, Crime d'Ari Aster avec Joaquin Phoenix, Pedro Pascal et Emma Stone, c'est Eddington.
Ah oui, ça c'est une belle surprise de l'été.
Voilà, en pleine pandémie de Covid-19, eh bien, la confrontation pour les élections à la tête de la municipalité, entre le shérif et le maire d'une petite ville du Nouveau-Mexique qui prend donc une tournure dramatique. Et donc, l'accumulation dans la première moitié du film de tensions exacerbées par une bande originale d'ailleurs très anxiogène qui laisse place à un tournant inattendu débouchant sur un point de non-retour vers une violence digne d'un film d'horreur d'ailleurs.
Ah oui, la fin, là aussi la mise en scène exceptionnelle.
Oui, pour un western quand même assez ultra-moderne, hein, particulièrement éprouvant, nourri d'ailleurs d'événements traumatiques et de pertes de repères. Donc c'est un constat largement pessimiste sur un monde où on ne dispose pas de réponses et pourtant noyé d'informations, régi par l'omniprésence d'Internet et des réseaux sociaux. Voilà, donc on le doit à l'éditeur Metropolitan qui nous le propose dans une version haute définition et très haute définition, Blu-ray 4K. Voilà, donc c'est déjà sorti. Et c'est disponible chez tous les bons revendeurs. Et puis on va peut-être terminer par un autre film. Film de Jean-Claude Barny, film dramatique avec Alexandre Bouillet, Déborah François, Stanislas Mérard. Film de 2024 qui se passe au milieu des années 50. L'histoire d'un psychiatre français d'origine martiniquaise qui est nommé chef de service dans l'hôpital psychiatrique de Blida en Algérie. Et donc, c'est braquer les projecteurs sur l'authentique Frantz Fanon, figure majeure, pourtant largement méconnue de l'anticolonialisme, qui reste le principal mérite d'ailleurs de ce biopic. Hélas, trop sage et didactique en regard de ces méthodes révolutionnaires qui bousculèrent l'ordre établi. Et c'est un petit peu dommage, fortement dommage pour ce film, parce que franchement, il avait, je dirais, tous les ingrédients pour donner un biopic de haute volée. Voilà, donc on le doit à Eurozoom, c'est disponible. Et puis voilà, si vous avez apprécié le film, eh bien, vous pouvez vous le procurer. Eh bien, je crois que j'ai fait un petit peu le tour, Chris, de cette sélection.
Et oui, je crois qu'on va faire une pause musicale.
Je crois.
Ah, oui. Ouais, on va faire une petite pause. En tout cas, vous voyez, une sélection encore très riche. Et puis voilà, vous avez le choix. Il y a des le film dont on n'a pas parlé, hein, mais qui sort également, Kingdom of Heaven, dans la version longue, qui vaut vraiment le détour. Un petit film fantastique, Monster Squad, pourquoi pas. Donc il y a des choses, et bah, il faut se dépêcher, parce que bah, c'est quoi, c'est mercredi soir le réveillon déjà.
Et, oui, ouais. Et puis ce polar un peu gore aussi, qui vient de sortir, Last Stop Yuma.
Ah oui, c'est pas mal.
Qu'on avait vu aussi, ouais. Voilà, donc c'est disponible en DVD, Blu-ray, donc
ouais, et un polar également, Racket, avec il y a dit Constantine d'ailleurs dedans. C'est assez marrant de trouver voilà, des films à découvrir. Bon, on fait une petite pause musicale mi-temps d'émission.
Bien, oui, avec une comédie musicale,
oui,
qu'on connaît très très bien,
ouais. La La Land.
Voilà.
Ben, c'est vrai que les comédies musicales, c'est incontournable pour les fêtes. Hein. Forcément, il faut qu'il y ait une comédie musicale. Tiens, ça me fait penser que Justin Hurwitz, le compositeur de la musique de La La Land, eh bien, dirigera un ciné-concert de Babylone. Ça sera au Grand Rex au mois d'octobre 2026. Voilà, c'est pas tout de suite, mais voilà. Il avait déjà fait ça avec La La Land, justement, au Hall Tony Garnier à Lyon. Et il va récidiver avec le Babylone, toujours de Damien Chazelle d'ailleurs, parce que La La Land, c'est Damien Chazelle.
Eh oui.
Eh oui.
Donc là, on est parti pour à peu près 8 minutes de La La Land.
Quand on aime, voilà, on ne compte pas.
C'est l'épilogue, en fait, de La La Land, qui est une très très belle partition, en tout cas, et un très très beau morceau. Je vous le conseille, si vous ne connaissez pas, eh bien, une belle prestation de Justin Hurwitz. Allez, tout de suite, La La Land, et on se retrouve pour les films de la semaine.
Thank you.
Les films de la semaine, ce soir.
Avatar 3 de James Cameron, L'agent secret de Kleber Mendoza-Filho et Rebuilding. Alors, on va vous parler de ces trois films ce soir. On va commencer par le blockbuster de l'hiver, oui, des fêtes. C'est bien sûr Avatar 3. Le film de James Cameron où l'on retrouve bien sûr Sam Worthington, Zoe Saldana, Una Chaplin également, Stephen Lang. Voilà, donc troisième volet de cette saga qui va comprendre, je pense, deux autres films. Hein, d'après James Cameron, il devrait y avoir deux autres volets. Alors, le film, Laurent vous l'a dit tout à l'heure, est déjà un succès dès sa sortie, hein, puisque effectivement, il draine beaucoup de monde en salle. Le film, donc, est énormément bénéficie d'énormément de séances, malgré sa durée conséquente, puisque le film dure 3 heures et 18 minutes. Il vous est proposé à la fois eh bien, en relief et également aussi en 2D et en HFR, c'est-à-dire en High Frame Resolution. Donc Laurent l'a vu en 3D, moi je l'ai vu en 2D mais en HFR variable dans une, et en 4K. Donc ce qu'on peut dire c'est qu'effectivement en termes de technologie, James Cameron fait très fort à nouveau et que ce nouvel épisode est une réussite, à n'en pas douter, d'un point de vue du spectacle qu'il propose. C'est vraiment un spectacle total et c'est vrai que moi j'ai été comme pas mal bluffé par le rendu de l'image. C'est ça qu'on a en HFR, on a l'impression d'avoir enfin le grain argentique disparaît et on a plutôt une image de presque de cinématique vidéo un petit peu. Ça fait un peu penser à ça. En tout cas. Mais les personnages se déplacent avec énormément de fluidité. Bon, la définition de l'image est incroyable. Voilà, genre qu'on a fait un saut qualitatif par rapport au précédent Avatar. En plus, Weta Technology a développé un système de motion capture amélioré. Donc, au total, on a quand même, on est vraiment, même en 2D, Laurent nous parlera de la 3D dans quelques instants, mais on est déjà dans un spectacle vraiment immersif. Ce qui fait que finalement, ces 3h15 de projection passent comme une lettre à la poste. En tout cas, c'est le ressenti que j'ai eu en assistant à ce film. Et ce, d'autant plus que le film est très rythmé, il y a quand même beaucoup d'action. C'est peut-être d'ailleurs une des limites du film, parce que c'est vrai que autant dans le deuxième épisode, il y avait comme la scène finale qui était pendant trois quarts d'heure quasiment l'action non-stop. Là, on a quand même, on va dire, on a une scène finale là aussi assez dantesque, mais quand même, je trouve que c'est beaucoup plus rythmé quand même que l'épisode 2. Donc on ne s'ennuie pas, tout ça c'est très bien emballé, voilà, c'est très bien mis en scène, James Cameron est à son affaire et c'est vrai que il y a quand même ça ressemble un petit peu d'ailleurs à certains moments le film à une sorte de survival hein, parce que on est dans la jungle, voilà, les personnages principaux sont poursuivis par de nouveaux antagonistes. Alors justement, et c'est aussi d'ailleurs une des réussites du film, c'est la nouvelle antagoniste du film, la terrible Varang, interprétée par Una Chaplin. Et je trouve que le personnage est particulièrement graphiquement très bien dessiné, voilà, mais très très beau, mais en même temps assez inquiétant. Donc, je pense que l'actrice qui joue le rôle rend très très bien l'ambivalence du personnage. Et il y a aussi une dimension qui existait déjà dans les précédents films et qui est encore, je dirais, renforcée et plus évidente encore de par la présence de Varang et de sa tribu, c'est la dimension westernienne, parce que effectivement, cette tribu de antagonistes, la tribu de, alors je sais plus c'est comment il s'appelle, c'est enfin la tribu du feu finalement, et qui habite à proximité d'un volcan, ce sont les Indiens. Voilà, donc en fait c'est cette histoire de colonisation, c'est comment finalement les colons anglo-saxons se sont imposés sur le continent américain. Là c'est un peu la même chose. Il y a cette dimension westernienne cette dimension mystique qui rappelle d'ailleurs, on voit des scènes de danse autour du feu, c'est exactement les Indiens et qui sont directement cités. Voilà, donc moi je trouve ça assez intéressant, cette dimension là Par contre, c'est vrai qu'il y a quand même de petits bémols, parce que c'est vrai que si force est de reconnaître qu'on passe 3h15 d'un formidable spectacle, le scénario, en gros, c'est la même chose que le 2. On a tout de même la sensation, je m'en doutais un petit peu, mais que James Cameron avait déjà tout raconté, tout dit, déjà peut-être sur le premier épisode, et puis forcément avec le deuxième. Voilà. En plus, on nous fait revenir Quaritch, qui était mort à la fin du 2, mais enfin qui, vous savez, qui on le fait revenir d'une certaine façon. Donc finalement, il y a un côté un petit peu redite là-dedans, ce qui fait que moi je m'interroge un peu sur les deux prochains épisodes. C'est plutôt sur le scénario que j'ai quelques bémols, parce que d'un point de vue du spectacle, il assure. Il y a comme aussi des choses qui sont un peu redites du point de vue du spectacle, parce que les batailles sur l'eau, on les avait vues aussi dans le 2. Donc même si on prend toujours grand plaisir à les retrouver, je trouve qu'il y a les effets spéciaux sont assez ahurissants. Donc c'est vrai que ça fonctionne vraiment très très bien. Mais si on prend un petit peu de recul, je me dis, si je dois m'aligner les deux films, le 2 et le 3, c'est-à-dire qu'on est pratiquement à 7 heures de projection, est-ce que je risque pas de m'ennuyer un petit peu quand même? Mais sur le moment, en tout cas, on passe un très bon moment, si je puis dire. Et alors, je sais pas, Laurent, toi, tu l'as vu en 3D. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que le spectacle était immersif vraiment là?
Alors, c'est vrai que il me semble que j'avais vu de mémoire un autre titre. Enfin, je sais pas si c'était le premier ou le second. De mémoire, je ne sais plus, en 3D. En tout cas, ça m'avait moins convaincu. Je crois que c'était le premier. Même si je crois qu'il faut remettre dans le contexte, c'était peut-être un des premiers films où il y avait vraiment, l'utilisation de la 3D, et que en fait ça apportait quand même un plus. Donc c'était une avancée technologique. Aujourd'hui, cette avancée n'est plus une avancée, elle est maîtrisée. Mais pour le coup, ça assoit un petit peu plus, je dirais, la maîtrise technique, étant donné que le film en 3D est vraiment totalement, enfin pour ma part, immersif. Ça, c'est clair que en particulier toutes les scènes qui se passent, donc les scènes maritimes, et Dieu sait s'il y en a, sont vraiment visuellement extraordinaires. Donc de ce point de vue là, je dirais qu'il y a rien à redire, malgré que ça et là on voit quand même certaines limites techniques où, en fait, on voit que l'image est générée informatiquement parlant. Il y a encore quelques petites limites, quelques petites saccades, ça et là. Mais on va pas cracher dans la soupe, comme on dit. C'est vraiment une très très belle réussite sur un plan technique. Il y a, je dirais, rien à redire. Je te rejoins un petit peu sur le scénario, sur le fond, en fait, le film est une sorte de copie, mais je nuancerai quand même par rapport aux deux, parce qu'en fait, dans le 2, Cameron inventait un monde, en fait. Pour De Feu et De Cendre, il n'invente rien, mais en tout cas, il perfectionne. Parce que il y a quand même des scènes qui sont, uniques et qui resteront en fait quand même dans le cinéma, avec des paysages d'une beauté fragile, des cérémonies nocturnes qui sont proches du mysticisme, d'une beauté extraordinaire, l'affrontement aussi à la fluidité. Avec une chorégraphie, c'est extrêmement bien écrit. Donc ça, je dirais que la faiblesse scénaristique est contrebalancée par certaines trouvailles, parce que Cameron, on l'a dit d'ailleurs de d'autres cinéastes, alors dans d'autres registres, qu'ils étaient des excellents conteurs, et Cameron fait partie en fait de cette troupe-là, de cette équipe-là, comme un Spielberg, ce sont d'excellents conteurs. C'est-à-dire que même si il n'y a pas véritablement de grandes nouveautés dans son projet, il sait s'entourer, que ce soit au niveau de l'image, de la découpe de son film, même qu'il fasse 3 heures et 20 minutes quasiment, eh bien, il n'y a pas de longueur. Et c'est ça, en fait, l'exploit qu'il réussit, c'est qu'en fait, il arrive à capter l'attention, même si, somme toute, en reprenant les mêmes personnages, même s'il y a des nouveaux venus dans cette histoire, mais en apportant pas grand-chose de nouveau à son monde, mais avec cela, eh bien, le nécessaire pour capter cette attention et pour réussir un pari technique et aussi d'ambiance. Voilà. Donc, pour cela, c'est un faiseur d'images qui est aujourd'hui, enfin, à mon sens, unique à ce jour, parce que il est vrai que on est quand même en manque de films à grand spectacle, et c'était son objectif premier, et pour ma part, je pense qu'il y a réussi. Donc le contrat est rempli, je dirais, mais c'est vrai que Cameron, on l'attend toujours au tournant, c'est que sur chaque nouvel épisode, est-ce qu'il va se surpasser? c'est quand même, c'est pas facile. Et je pense que là, avec l'investissement qu'il a pu faire sur ce projet-là, je pense qu'il faut qu'il rentabilise. C'est pour ça que je pense qu'il a annoncé qu'il y aurait peut-être une ou deux autres épisodes, parce que tout simplement, c'est pas quelque chose qui peut s'arrêter, surtout en l'état. Parce que voilà, c'est quelque chose qui était très attendu, qui marche, qui en termes de fréquentation. Et puis il y a quand même aussi une attente pour ce genre de spectacle, parce que c'est vrai que la production aujourd'hui elle est quand même relativement atone.
Voilà, donc notre conseil, c'est bien sûr d'aller voir ce Avatar 3 de Feu et de Cendre, de bonne facture. On vous l'a dit, franchement,
très bonne facture.
Je pense que c'est vrai que c'est comme tu l'as dit, on a le cinéma, c'est aussi du spectacle, et bah, quand le spectacle est réussi, bah, il ne faut pas bouder son plaisir.
On l'oublie quand même de temps en temps que c'est aussi du divertissement au cinéma.
Ouais.
Parce que là, on a l'impression que dans les projets qui sont proposés, il y a une part culturelle, mais il y a aussi, je crois, la mission de divertissement, et je crois qu'elle est un petit peu oubliée dans cette période un petit peu trouble. Ce genre de projet fait quand même beaucoup de bien une fois qu'on sort de salle.
Exactement. Bon, eh bien, on vous conseille donc ce Avatar de James Cameron. Voilà, une réussite. Je signale d'ailleurs que la musique signée Simon Franglen est réussie.
J'allais le dire, mais si je peux émettre un souhait, parce que c'est qu'on arrive à découvrir cette partition dans son intégralité sur un support physique et qui ne mette pas, on va dire, 6 mois, 1 an
sortir.
Avant de débouler, ça serait un petit peu dommage.
Alors, au générique de fin, on nous annonce que la BO sera disponible chez Hollywood Records. Alors après, on attend, mais ce serait dommage parce que c'est vrai qu'elle est quand même très réussie. Moi, je crois qu'il y a eu un CD sur l'épisode 2, mais qui était vraiment sorti à la sauvette.
À discrétion.
Ouais, et du coup, je l'avais loupé, j'avais finalement réussi à trouver le vinyle à l'époque. Bon, voilà, c'est mieux que rien, mais bon. Alors bien maintenant, alors, le divertissement, bien sûr, le cinéma, mais c'est aussi, parfois aussi, c'est la réflexion. Et puis il y a un film que nous avons vu, Laurent et moi, qui mêle à la fois le divertissement et la réflexion, le fond et la forme, c'est L'Agent Secret, film brésilien de Kleber Mendoza Filho, un film qui a d'ailleurs, je crois, me semble-t-il, obtenu le Grand Prix au Festival de Cannes. Alors c'est un film fleuve, un film qui dure 2h40, qui nous entraîne dans le Brésil de 1977. On est en 1977. Le pays est rongé par une dictature, par la corruption. Et on suit le parcours de Marcelo, un homme d'une quarantaine d'années, qui fuit un passé trouble et qui arrive dans la ville de Recife, où le carnaval bat son plein. En fait, il vient retrouver son jeune fils et espère y construire une nouvelle vie. Mais, bien sûr, c'est sans compter sur les menaces de mort qui rôdent et planent au-dessus de sa tête. C'est Wagner Moura qui joue le rôle de Marcelo, qui est d'ailleurs c'est pas son vrai nom, mais enfin, évidemment, voilà, il est poursuivi. On va pas spoiler, mais c'est vrai que c'est un. Si on devait définir, enfin, essayer de dire ce que c'est que ce film, c'est un peu compliqué d'ailleurs. On pourrait dire que c'est un tableau, effectivement, du Brésil de ces années 70, hein, miné par la corruption, par un régime autoritaire. Et c'est aussi, mais c'est pas vraiment un film sur la dictature. C'est plutôt un film sur comment on vit finalement, voilà, comment on arrive à vivre dans cet univers. C'est un film aussi un peu sur la paranoïa aussi, hein, puisque voilà, il y a toute cette dimension également dans le film. Alors, ce qui est intéressant aussi dans ce film Fleuve, c'est le ton qui est employé. C'est-à-dire que c'est un film où il y a une tension permanente, mais il y a aussi de l'humour. Il y a un humour un peu décalé, un humour noir. Et la première scène du film donne le ton. Et ça, c'est intéressant. D'ailleurs, ça m'a fait un peu penser à ce cinéma politique, au cinéma engagé italien, au film d'Elio Petri, où il y a toujours comme ça de l'ironie un peu là-dedans, voilà, du décalage. Donc, ça me fait penser un peu à ça. Alors, ça m'a fait penser un petit peu à Tarantino, d'une certaine manière aussi, parce que il y a quand même une vraie jouissance de cinéma. C'est-à-dire que c'est filmé en scope, déjà. Alors ça, c'est formidable, parce que voilà, on a une belle image. On sent que le réalisateur aime le cinéma de genre, et donc ça transparaît dans son film. Effectivement, on peut penser aux films d'espionnage, on peut films policiers, plein de choses. Et puis il y a aussi un autre niveau de lecture qui est la transmission, parce que tout le film tourne finalement sur la transmission. C'est un peu, c'est d'ailleurs jusqu'à la dernière image, sur le dernier plan, que je révélerai pas évidemment, mais on est là-dessus. Et il y a une empathie pour les personnages aussi dans ce film assez phénoménal. Je trouve qu'on éprouve vraiment beaucoup d'empathie pour ces personnages. Ces personnages qui existent vraiment d'ailleurs. C'est que le film est long, mais enfin long. Il n'est pas ennuyeux, hein, loin de là. Mais justement, cette durée permet justement au réalisateur de faire exister ces personnages. Et je pense que vous vous souviendrez longtemps de Sebastiana. Voilà. mais il n'y a pas qu'elle. Et donc, il y a toute une galerie de personnages vraiment très, très attachants. Et donc, au finish, moi, je suis sorti du film, de 2h40, mais j'ai trouvé le film assez passionnant sur ce qu'il raconte et comment il le raconte, finalement. Et voilà, donc moi, je ne peux que vous conseiller cet Agent Secret, coproduit d'ailleurs par son acteur principal, Wagner Moura. Alors, je sais que Laurent, tu l'as vu. Qu'est-ce que tu en as pensé de ton côté ?
Eh bien, un film assez magnétique. L'ambiance, l'atmosphère qui est mise en place dès les premières minutes, hein, parce qu'il y a une séquence d'ouverture qui est vraiment, assez phénoménale. D'ailleurs, on pourrait penser aussi à des grands réalisateurs quand on voit l'introduction, cette scène, qui restera dans les annales du cinéma aussi, assez mythique. On pourrait penser à du De Palma ou peut-être du Sam Peckinpah aussi, pourquoi pas. C'est une scène assez troublante et qui vous met en condition. Voilà.
Elle est assez incroyable, cette scène. En plus, il y a l'arrivée des chiens. Enfin bon, c'est des trucs, des trucs incroyables.
Ça donne le ton du film. Et alors, c'est sûr que si vous vous déplacez pour voir ce film, pour aller voir un film, je dirais policier, film d'espionnage.
Alors, c'est un peu trompeur.
Oui.
Parce que le titre, L'Agent Secret, est un peu trompeur.
Ouais. Vous allez être certainement déçu parce qu'en fait, c'est plutôt un film un petit peu. Nostalgique aussi, en toile de fond, comme tu le disais, sur la corruption qui bat son plein dans les années fin 70, donc au Brésil. Mais c'est quand même un film où, en fait, la réalité est totalement, par moments, déformée.
Et c'est intéressant, ça.
Et donc, du coup, on est porté par cette histoire, par
Il y a une histoire de jambes aussi importante dans
oui,
le film.
Oui. mais bon, on va pas spoiler parce qu'il y a quand même voilà des petites choses assez intéressantes. Tout à fait intéressante et nouvelle et originale, qui fait que en plus de cela, alors tu parlais de Tarantino tout à l'heure, mais aussi c'est une ode au cinéma.
Ah oui, totalement.
Pour le coup, en fait, il y a, je dirais, cet exploit que par l'intermédiaire en fait de cette histoire qui nous est contée, eh bien, c'est un grand hommage au 7e art. Et ça, c'est assez magnifique aussi.
Oui, et ça, c'est un autre niveau de lecture du film dont je n'ai pas parlé, mais tu as raison d'appuyer là-dessus, parce que c'est quand même c'est quand même très très important dans le film.
Oui. Et donc,
on ne peut pas trop en dire. Hein,
C'est un film intelligent parce qu'en plus, il apporte des questionnements. Mmh. Et une fois que vous l'avez vu, il fait encore réfléchir, en fait. Voilà, il y a plusieurs niveaux de lecture qui sont très intéressantes dans ce film. Donc,
ce qui est intéressant dans le film, c'est que finalement, le film nous dit que le cinéma, c'est une voyage à voyager dans le temps et dans l'espace. Tout comme les bandes audio qui sont à un moment donné importantes dans le film et qui nous permettent justement de voyager, mais faut pas trop en dire, il faut voir le film, mais c'est vrai qu'il y a cette dimension là aussi.
Oui, et puis l'histoire de ce film est bercée par des fantômes. Et donc c'est un film extrêmement dense, et donc il faut avoir une certaine une certaine approche, et puis je pense aussi faut s'y préparer, parce que il fait 2h40, même si je parle pas de longueur là, hein, pour le coup. Mais voilà, pour visualiser tous les niveaux de lecture, c'est un film un petit peu complexe, mais qui a, on va dire, un grand intérêt. Parce que il est intéressant à tout niveau.
Et il oblige le spectateur à travailler, puisque en fait, notamment dans la première heure, on ne sait pas grand-chose du personnage principal. Oui. En fait, on se pose des questions justement.
Voilà, donc on s'interroge.
S'interroge.
Et donc c'est assez surprenant cette ouverture.
La construction
je dirais pas qu'elle est logique, mais la logique n'est pas perçue d'emblée. Voilà.
Et attention aussi, le film joue sur deux temporalités également. Hein,
Oui. Il y a l'ambiance sonore aussi qui est magique.
Ah, oui.
Dès l'entrée d'ailleurs. Donc franchement, moi c'est une belle réussite que cet agent secret. Et moi je vous invite à le découvrir. En plus, sur grand écran, parce que ça vaut le détour.
Ah oui.
Donc, il faut vraiment, pouvoir profiter pleinement de cette œuvre, je vous conseille fortement d'aller le voir très rapidement.
C'est un vrai plaisir de cinéma. Il faut le voir en salle. Hein, parce que... Et alors, Wagner Moura, moi, que je ne connaissais pas trop, finalement, mais j'ai trouvé assez charismatique dans le rôle principal. Donc, allez voir cet agent secret. Voilà, c'est notre deuxième recommandation ce soir. Et puis peut-être a-t-on le temps de dire un petit mot de rebuilding, ce qui voudrait dire se reconstruire. Parce que, alors moi je n'ai pas vu, mais Laurent, tu es allé voir ce film.
Oui, c'est un film dramatique. Hein, l'histoire, ça se passe dans l'Ouest. Quasiment calciné, l'histoire d'un homme qui reconstruit sa vie forcément c'est un film assez intimiste, parce que tout simplement c'est porté par quelques acteurs, et en particulier par Joss O'Connor, et donc la question principale, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a Rebuilding, c'est comment se reconstruire quand tout a brûlé. C'est la question que pose ce film Rebuilding. Et donc là, pour le coup, on est dans un coin du Colorado dévasté donc par un incendie. Un homme tente de rebâtir ce qu'il a perdu, donc sa maison, son passé, et pourquoi pas de redonner un sens à sa vie. C'est le point de départ de cette chronique d'après Désastre. Et pas de drame tonitruant dans ce film, hein, seulement la patience du quotidien, la lente couture des plaies et la renaissance qui passe par la communauté. Et donc, Max Walter Silverman filme la reconstruction comme un acte de foi silencieux, à la lisière du documentaire, refusant le pathos, au profit d'une vérité nue, d'un qui est au centre, dans sa retenue, dans sa lenteur de son regard. Joss O'Connor rejoint la lignée des solitaires de l'Ouest, stoïque, pudique, presque spectrale. D'ailleurs, sa présence donne au film une densité assez magnifique, comme si l'Amérique se reflétait à travers sa silhouette fatiguée. O'Connor, d'ailleurs, incarne moins un personnage qu'une idée qu'il trimballe depuis quelques mois dans tous ses films, d'ailleurs, de Mastermind, d'History of Sound, qui a été découvert d'ailleurs au Festival de Cannes, celle d'un pays qui se reconstruit à mesure qu'il s'efface, et donc face à lui, le réalisateur qui pousse le minimalisme jusqu'à la 16, hein, chaque plan semble taillé dans le bois, chaque son respire la poussière, et Rebuilding rejoint cette famille de films qui croit encore à la beauté du réel. Une Americana des décombres, tendre et sans emphase, peu de choses s'y passent. C'est assez contemplatif, hein, je vous le cache pas. Et pourtant, tout s'y joue, la dignité d'exister malgré la perte. Donc, la lumière qui revient toujours après le feu, c'est un petit peu ce que donne ce film, une grande lueur d'espoir en tout cas. Je ne vais pas vous révéler le final, mais bon, ce qui est un petit peu dommage pour ce genre de film, c'est qu'en fait il soit proposé dans une très petite salle qui ne rend pas du tout hommage à la qualité des décors que propose le film. Et donc ça, par contre, c'est extrêmement négatif parce que c'est ce qui, à mon avis, dessert fortement cette histoire-là. Donc, si je pouvais dire, essayer sur des sorties comme celle-là, vu que c'était en plus une nouveauté la semaine dernière, c'est au moins de le proposer dans une salle digne d'une projection. Ouais. De ce type de film. Voilà.
Merci Laurent. Donc, Rebuilding de Max Walker Silverman avec Josh O'Connor. Voilà, un western, une sorte de western contemporain, mais contemplatif. Et c'est vrai que cette salle ne rend pas justice vraiment au décor du film. C'est vraiment dommage.
Il y a quand même une salle, deux, trois salles hein, sur Limoges qui sont quand même assez pitoyables.
Ouais, ça c'est vraiment dommage. Voilà, puis en plus dans ce film Rebuilding, en plus il y a la petite fille, la jouée par Kelly Reyes, je crois, qui m'a l'air vraiment très craquante dans le rôle de la fille de Josh O'Connor. Qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que le duo fonctionne bien?
Oui, le duo fonctionne bien. C'est vraiment les deux protagonistes du film, avec aussi la femme de Joss O'Connor dans le film, puisque en fait aussi, voilà, ils sont séparés. On comprend qu'ils sont séparés, et donc voilà, c'est vraiment les trois acteurs principaux. Mais c'est aussi un film, je dirais, de rencontre. Et c'est ça qui est intéressant. Ça me fait penser un petit peu à une histoire vraie, tu sais, c'est ce vieillard qui parcourt et qui, au fur et à mesure, sur son tracteur tondeuse à gazon, qui va faire des rencontres. Et c'est un film là-dessus, c'est aussi sur l'humain, et donc avec bien sûr un versant assez écologique aussi. Donc voilà, c'est vraiment, il y a ce côté qui est, on va dire, un point fort de ce film-là. Et je pense, j'espère en tout cas, qu'il aura une deuxième chance à la vidéo, parce que je pense que ce film ne va pas rester très longtemps sur les écrans.
Eh bien, ce soir, vous l'avez compris, vous pouvez aller voir Avatar 3 de Feu et de Cendre et L'Agent Secret. Ce sont vraiment nos deux recommandations. L'Agent Secret, je pense qu'il sera peut-être un des meilleurs films de l'année dans notre palmarès. On fera un petit bilan au mois de janvier. Et puis, vous pouvez aller voir Rebuilding avec Josh O'Connor qu'on adore. Et dépêchez-vous parce que le film ne va pas être sans doute exploité très très longtemps. Voilà, et ben il est 22h et bientôt 34 minutes à la pendule de RTF. Vous écoutez Cinéscopie, c'est le magazine du cinéma et de la musique de film. Je me tourne vers Laurent à nouveau. Est-ce que nous avons le temps d'écouter une petite virgule musicale?
Alors voilà, une petite virgule.
Oui.
Et donc avec un compositeur, Guy Farlet, qui va nous proposer eh bien sa partition pour en fait ce projet Marie de Nazareth.
Et oui.
Et donc
c'était un beau téléfilm.
Beau téléfilm et musicalement.
Guy Farlet, très très bon compositeur.
Tout à fait. Et donc là, on vous propose un extrait qui s'intitule Le Fils et tout de suite et maintenant d'ailleurs. Guy Farlet, et on se retrouve juste après pour vous annoncer eh bien, les sorties cinématographiques. Qu'est-ce que vous pourrez voir à partir de mercredi? Parce qu'il y a quand même quelques sorties, malgré Avatar. Allez, tout de suite, Marie de Nazareth.
C'était donc la musique de Maria de Nazareth, signée Guy Farlet ou Guy Farlet. Voilà, superbe partition pour ce téléfilm. Alors Guy Farlet, il est vraiment à surveiller parce que il est très très talentueux. Et bien maintenant, nous allons vous parler vous signaler des films qui vont sortir sur vos écrans de cinéma ce mercredi 24. Alors Laurent, une liste peut-être un petit peu moins longue que d'habitude.
Oui, il y en a un petit peu moins parce qu'en fait, il n'y a que 11 sorties.
Oui.
Nous avons ça, je pense que vous avez déjà vu les affiches. La sortie à partir de mercredi d'Anaconda de Tom Gormican. Voilà.
Bon, une version peut-être parodique avec Jack Black et Paul Rudd.
Autre film, La dernière valse d'Anselm Cham. Mmh. En garde de Laetitia Lowe. Laurent dans le vent. D'Anton Balekjian et de Léo Couture et de Matteo Eustachon. Mm-hmm. Donc ces films-là, bah, je peux vous annoncer déjà que y aura peut-être Anaconda, mais pour les trois autres, je pense qu'on ne les aura pas sur sur la région.
Alors peut-être Laurent dans le vent, parce qu'il y a quand même Béatrice Dalle dans le film, donc peut-être, je ne sais pas. Petit point d'interrogation.
Oui. Mais je ne pense pas réellement. Bon. Par contre, on pourra peut-être voir Los Tigres d'Alberto Rodriguez. J'ai fait une grossière erreur en fait.
Ouh là là.
Parce qu'en fait, je vous annonce les sorties. Du 31 décembre.
Ah voilà. Oui, je me disais, parce que Laurent dans le vent, moi j'avais une date pour le 31 décembre, mais je me disais, peut-être qu'ils ont avancé la sortie du film.
Tu vois, alors je reprends, hein, autant pour moi, hein, c'est vraiment une grossière erreur. Donc nous allons voir à partir du 24 décembre.
Donc là, c'est bien à partir de mercredi.
Voilà. Bob l'éponge, le film, un pour tous pirates.
Voilà. Ouais, écoute, moi, tu sais, moi j'aime bien Bob l'éponge, donc j'irai voir ça.
De Derek Draymond.
Voilà.
Donc, on pourra voir aussi La femme de ménage, hein, de Paul Feig.
Gros succès littéraire.
Voilà. Et le film s'annonce quand même un petit peu en deçà du roman.
Peut-être le duo d'actrices mérite des tours.
Mais à voir. Donc ça, nous allons pouvoir le voir sur la région. Hein.
Oui, c'est des grosses sorties, là.
Et voilà. Nous pourrons voir aussi le film de Louise Aymon, L'Englouti, qui va sortir mercredi. Autre film de Safia Benaïm, Libertalia, et aussi un film asiatique de Sanging Lee, Le Maître du Kabuki. Voilà. On pourra voir aussi le film de Caspar Mazzotti, Mountain Adventure, Au-delà des frontières, et aussi une petite comédie quand même, au passage, de Pierre Mazingarbe, La pire mère au monde, avec Muriel Robin, entre autres.
Voilà, ça devrait être sympathique.
Et Louise Bourgoin.
Oui, voilà, un beau casting.
Un film de Camille Lougan, Selon Joy, et alors un film que j'attends avec impatience, de Yu Meng,
éthique, voilà,
Le Temps des Moissons.
Ah oui.
Donc qu'on pourra voir, donc c'est plutôt une belle aubaine.
Une bonne nouvelle, ça. Oui.
Et pour en terminer, parce que j'adore ce metteur en scène, Fatih Akin.
Ah oui.
Et là, avec Une enfance allemande, L'île d'Amroum, 1945, sur un thème quand même relativement original. Donc là, ça va être un film, je pense que ça fera partie des films que j'irai voir.
Oui, certainement aussi. J'ai eu la bande-annonce là, cet après-midi. Ça donne envie. En plus, Fatih Akin, un très très bon metteur en scène. C'est intéressant, je pense, d'avoir le regard d'un cinéaste comme d'origine, enfin allemand, mais enfin qui a des origines turques,
oui,
sur cette partie de l'histoire allemande. Donc je pense que c'est
assez peu connu d'ailleurs, hein, oui. cette période là
et en plus cette zone géographique en plus va découvrir.
Oui, tout à fait. Donc à plusieurs titres, ce film peut être intéressant.
Voilà. Eh bien, merci Laurent. Donc, quand même des sorties quand même dignes d'intérêt. Eh bien, on va se retrouver maintenant au mois de janvier, parce que là, ce sont les fêtes.
Donc, fête oblige, quand même.
On va se retrouver en 2026.
Et oui.
Alors, évidemment, vous souhaitez d'excellentes fêtes de fin d'année.
Passez de très bonnes fêtes. Et puis aussi, faites le plein de musique de film, et aussi de films, hein, parce que c'est l'occasion d'aller découvrir. Désormais, on a un petit peu plus le temps aussi, voilà.
Oui, voilà, et puis il y a beaucoup de comédies en salle, des comédies, des dessins animés, des blockbusters, comme on l'a dit, Avatar, des films aussi pour réfléchir, mais en même temps qui divertissent, comme L'Agent Secret, parce que le film joue sur les deux tableaux et est une réussite, on peut le dire franchement.
Oui. C'est vrai que, en tout cas, je pense que c'est peut-être une des premières années où il y a vraiment un programme très éclectique. Et un bon programme. C'est-à-dire
oui, c'est ça.
Où il n'y a pas véritablement l'hégémonie d'un blockbuster et qu'à côté, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Là, vraiment, vous avez, je dirais, de la matière culturelle.
Absolument. Eh bien, mon cher ami, je te souhaite d'excellentes fêtes. Je
bien,
vous souhaite
pareillement
une très
aussi,
bonne semaine.
Et profitez bien de ces fêtes de fin d'année, en tout cas. Et puis, on le voit, le retour aux sources, la famille, tout ça. Voilà, profitez de ces instants, mais en même temps, allez quand même fréquenter les sables obscurs.
Absolument. Allez, et bonne fête et à tous et à toutes, et à très bientôt. Ciao, ciao.
Salut.